Et maintenant, l'édition spéciale de VOA Afrique consacrée au tournoi historique de la Ligue africaine de basketball au Rwanda.
Rebonjour à nos auditeurs de la Voix de l'Amérique, ici Eugène Pewa Pelema depuis le studio à Washington DC. Je suis rejoint par Célina Abagay depuis, par Jean-Claude Malinga depuis Kigali. Bonjour Jean-Claude, comment vas-tu?
Oui, bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, moi.
Oui, ça va très bien, Jean-Claude. Ici, on suit ce qui se passe depuis le début de cette compétition de la balle à Kigali. Nous sommes très satisfaits par tout ce qui a été fait par le Rwanda. On voit la Kigali Arena, c'est un honneur et une fierté pour l'Afrique. Et nous avons vu cette compétition bien organisée de bout en bout. Nous vous félicitons et on aimerait avoir quand même vos impressions. Vous êtes sur place là-bas, comment ça s'est passé après le premier jour? Comment vous avez pu venir à bout des petits problèmes que vous avez peut-être rencontrés, comme dans tout événement de ce genre organisé de par le monde?
Oui, vraiment, on peut dire que c'est une fête, c'est un festival véritable de basketball. Le Rwanda a eu cet honneur d'accueillir cette compétition de la première dans son histoire. Alors là, c'est quelque chose dont on peut être fier.
Tout à fait. Nous sommes aussi fiers pour vous. Nous sommes fiers d'être Africains quand on voit du travail d'excellence qui est fait. Et je n'ai cessé de le dire sur cette ligne qu'il faudrait que les autres pays africains puissent voir ce qui se passe à Kigali dans le domaine du basket et même dans les autres sports. Quand on voit les infrastructures que vous avez mis à la disposition de votre jeunesse et donc à la disposition de la jeunesse africaine, il serait bien de copier ce bel exemple que vous êtes en train de montrer. On voit un beau plancher, c'est vrai, de la balle, mais la Kigali Arena n'a pas été inaugurée aujourd'hui. On l'a vu il y a un an et quelques, lorsqu'elle a été inaugurée, on avait déjà ce sentiment de fierté, mais on constate que le Rwanda, qui est le prochain va accueillir l'Afro-Basket du 24 août 6 septembre de cette année, avait déjà organisé de nombreux matchs, plusieurs fenêtres de qualification, des matchs même de Afro-Basket élimination des Afro de cette ligue, de la Ligue africaine de basketball. Et là, vous êtes passé à la vitesse supérieure et on sent que ça devient une routine pour vous.
Vraiment quelque chose de bon, quelque chose d'excellent. Donc vous avez évoqué cet Afro-Basket qui va se dérouler d'ici des mois. Donc en rappelant que hier il y a eu le tirage au sort qui montre les quatre groupes qui vont être entrés en lice pour cette compétition africaine. Là aussi, donc on peut dire que c'est le festival qui continue ici dans le pays de Mille Collines.
Tout à fait. On a suivi en direct ce tirage au sort où on a vu donc le Rwanda qui est dans ce groupe A avec la RDC, l'Angola et attends une des équipes du groupe où il y avait le Maroc, l'Ouganda et le Cap-Vert. On a vu le groupe B avec la Tunisie, le Centrafrique, l'Égypte et la Guinée. Le groupe C avec le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Mali. Le groupe D enfin avec le Sénégal, le Cameroun, le Soudan du Sud. Et le deuxième représentant de cette poule du Maroc, Ouganda et Cap-Vert. Donc, on a suivi avec beaucoup d'intérêt le tirage au sort et nous avons été très satisfaits. En ligne, il y a aussi Sedina Abagay depuis Dakar. Sedina, nous sommes avec Jean-Claude. Nous avons été avec lui au début de la compétition. Il fait partie de l'organisation de cette Ligue africaine de basketball côté rwandais et il a partagé avec moi, le temps que tu arrives, ces impressions, mais je te laisse quand même la possibilité d'échanger avec lui.
Oui, Jean-Claude, il n'y a pas de problème depuis Dakar.
Oui, bonjour. Bonjour beaucoup.
Nous suivons avec intérêt la balle et surtout Avec beaucoup de fierté, nous voyons l'infrastructure qui a été mise en place à Kigali. On en apprécie la beauté et l'utilité parce qu'on en a un à Dakar qui nous a permis d'organiser l'afro-basket féminin. Et on voit également que le vôtre vous permet d'organiser l'afro-basket masculin. Et comme Eugène l'a dit, ce genre d'infrastructure multipliée à travers la crise permettra au basketball africain de se développer. Et c'est justement là ma question. Au Rwanda, au-delà de la mise en place d'infrastructures de ce genre, qu'est-ce que vous faites pour développer le basketball à la base?
Est-ce que vous pouvez un petit peu élever la voix parce que je vous reçois très très difficilement.
Ben, je vais vous répéter sa question. En fait, il a dit que le Rwanda a fait d'énormes efforts pour développer les infrastructures de basketball, ce qui est extraordinaire pour la pratique de ce sport. Et il voudrait savoir, mis à part les infrastructures, comment vous faites pour développer justement votre programme de basketball en général, la formation des entraîneurs, ainsi de suite. Si vous pouvez avoir donné quelque chose, quelques idées là-dessus.
On peut dire que c'est le fruit des efforts de plusieurs institutions. Donc c'est ça, le travail conjoint des gens concernés. Il y a le ministère des Sports, il y a le Comité national olympique. Il y a aussi cette volonté politique à partir des hautes autorités. Alors là, donc, on a eu un plan stratégique de 5 ans. D'où il y aura dans chaque discipline sportive, il y aura un stade de Ouroboros. Si on commence par le football par exemple, il y aura un stade moderne qui aura la possibilité d'accueillir 50 000 personnes. Dans le basketball, il y a cet édifice qui est très excellent, qui a été achevé, qui a été inauguré il y a une année et demie, donc c'est Arena de Kigali. En volleyball, c'est la même chose. Donc il y a eu dans le plan stratégique de 5 ans, l'objectif principal est qu'il y a un stade pour le football et quatre prémices de calibre international pour les autres disciplines telles que le volleyball, telles que le handball et le basketball. Et il y a aussi quelque chose à rappeler. Donc le Rwanda a mis sa candidature pour préparer le championnat du monde de cyclisme. Là, il est en compétition, il est en lice avec le Maroc. Donc là, le vainqueur n'est pas encore connu, mais quand même, le fait que le Rwanda puisse entrer dans cette compétition, c'est quelque chose qui montre que le Rwanda a cette volonté ferme pour développer son nom au sein du sport international.
C'est une très très bonne chose, Jean-Claude. Ce qui est sûr, nous avons même pu voir lors des matchs du Patriot Basketball, et vous avez parlé tout à l'heure de cette volonté politique, on a pu voir le président Kagame à deux reprises venir soutenir son équipe, l'équipe de la nation. C'est un geste qui, à mon avis, permet d'encourager cette jeunesse à pratiquer le basketball à très haut niveau, et c'est très très important. Je pense que de cette manière, vous avez énormément de chances de pouvoir développer le sport en général, parce que nos populations en Afrique sont très jeunes, pour la plupart entre 70 à 80% selon les pays, et la pratique du sport n'est pas seulement qu'un jeu, c'est aussi un moyen pour pouvoir faire des études, c'est un moyen pour être éduqué dans la vie, et en faisant ce que vous faites, ça donne un très bon signal à la jeunesse qui comprendra que le sport c'est bien pour le corps.
Voilà. Donc, dans son sens, là, il y a cette volonté des hautes autorités du pays. Et ce qui veut dire que la balle se trouve maintenant dans le camp des athlètes. Parce que avoir cette volonté est une chose. Pouvoir édifier les infrastructures, c'est une chose. Mais aussi avoir les athlètes qui peuvent être à la hauteur de remporter les médailles, les titres, c'est une autre chose. C'est pour cette raison qu'on dit qu'on peut dire qu'il y a la volonté, il y a ce soutien de la part des dirigeants. Il y a aussi les athlètes qui doivent faire leur effort pour être champion, parce qu'on ne peut pas jouer pour jouer, on peut jouer, on est obligé de jouer pour être champion.
Tout à fait. En tout cas, Jean-Claude, on sait que vous avez énormément à faire, donc on va vous laisser aller et on va suivre quand même quelques mots, juste un petit mot. Qu'est-ce, pour vous, quelles sont les chances pour le Patriot BC d'emporter ce match, parce que vous jouez quand même à la maison avec le public. Comment, quel est l'état d'esprit de votre équipe?
Voilà, il y a cet avantage du domicile, mais quand même, il faut aussi savoir que l'US Monastir, c'est un gros morceau. Là, les pronostics, d'ailleurs, sont bons pour cette formation tunisienne, mais quand même, là, cet avantage d'être à domicile aussi peut compter. Les pronostics, donc, sont penchés toujours sur les géants maghrébins.
Tout à fait. En tout cas, merci Jean-Claude. On souhaiterait quand même, si vous avez la possibilité, de nous avoir le président de la fédération. Si on pourrait avoir une interview en français, en anglais, on appréciera probablement peut-être à la fin de ce match ou demain avant les prochains matchs qu'il y aura pour la finale et le classement de 3e, 4e place. Donc,
on va essayer de faire cette connexion.
Ok, à très bientôt. Sedina.
Merci beaucoup.
Ok, au revoir, à bientôt. Sedina, donc nous avons aujourd'hui la deuxième demi-finale qui va opposer l'US Monastir de Tunisie à cette équipe de Patriot BC. Comme Jean-Claude l'a dit, nous avons peut-être un petit avantage pour cette équipe de Monastir qui a prouvé jusqu'à maintenant qu'elle était une équipe très sérieuse. Mais de l'autre côté, on a une équipe des Patriot BC qui joue à la maison et qui doit peut-être très remonter avec probablement le soutien de leur équipe et probablement avec le soutien de leur président qui va peut-être apparaître aujourd'hui aussi pendant ce match-là, ont des possibilités, ont une chance, même si elle est infime, de pouvoir l'emporter. Tout est possible au basketball.
Ils ont une chance, le jeu pas infime, mais ils ont une chance qui sera basée sur leur attitude sur le terrain. Parce que pour défier le monastère, il faut être extrêmement discipliné, pratiquement, déterminé. Et tu peux avoir un mental qui permet de ne pas sombrer quand ils font des remises ou bien quand ils dominent un certain comportement du jeu. Parce que il suffit de lâcher un peu de l'est mentalement pour que cette équipe du monastir puisse carrément prendre les devants et les lâcher. Donc ce sera à cette équipe de Patriots de montrer le même état d'esprit qui leur a permis dans le match précédent. Lorsque le 3-0 de Montpellier a mis un coup d'accélérateur énorme. Pour revenir dans le match, ils ont eu un mental de aussi qui a été à ce niveau-là pour leur permettre de ne pas lâcher ni sur le plan du score, ni sur le plan de la détermination de l'agressivité, ce qui leur a permis de gagner ce match qui a été quand même pour le dire très discuté de bout en bout. Donc il faudra la détermination aujourd'hui et surtout parce qu'on parle souvent de talent, mais surtout pour jouer cette équipe de Monastir qui a un plan de jeu très uni, qui a une identité de jeu très appréciée et surtout très efficace. Il faut être discipliné avant tout, tactiquement, être agressif sur le jeu de manière positive et profiter également du fait qu'ils vont montrer.
Oui, tout à fait, Sedina. En tout cas, on a vu une équipe de Monastir qui, dès le départ des matchs groupes jusqu'à leur arrivée dans cette demi-finale, d'une certaine manière imposer leur jeu. On a vu durant le quart de finale contre les forces armées police, on a vu contre le AS Douane, pardon, on a vu cette équipe de Douane essayer de faire douter cette équipe de Monastir qui très rapidement a mis en place sa stratégie et a déroulé son jeu habituel. On a vu en sens inverse cette équipe de Patriotes qui a été puisée dans le courage soutenu par leur public grâce à un grand Mugabe qui a permis à son équipe de revenir à un moment crucial où ils étaient menés de près de 6 points à quelques minutes de la fin du match, revenir sur leur adversaire et finalement l'emporter. Mais comme tu l'as dit, tout va dépendre du plan de jeu, tout va dépendre de la façon dont chaque équipe va jouer. Nous savons que cette équipe de Monastir va dérouler son jeu. Dans quelques minutes, on va essayer de voir qu'est-ce que chaque équipe doit faire pour pouvoir continuer à s'imposer et essayer de gagner ce ticket pour cette demi-finale qui donnera un ticket. Excusez-moi, pour la finale qui va se jouer demain là-bas à Kigali, Sedina.
Oui, évidemment, je pense que la principale équation réside dans le fait de jouer cette équipe de l'UEFA en Afrique. Est-ce que les Patriots en sont capables? Depuis le début du tournoi, tu l'as rappelé, cette équipe de Monastir, match après match, montre qu'elle est à un niveau de jeu que les autres ne peuvent pas pour le moment atteindre. C'est pour ça qu'ils ont enchaîné 4 victoires avec au minimum 86 points inscrits, au maximum. Centré, il faut aussi souligner qu'ils ne prennent pas souvent beaucoup de points parce que les Patriots en match de poule ont été ceux qui ont inscrit justement le plus grand nombre de points face à cette équipe de Montpellier. C'était 75 points, ce qui montre que les Patriots ont peut-être la clé pour offensivement, pour gêner un peu cette équipe de Montpellier, profiter de certaines failles, mais défensivement aussi, donc ils trouvent la clé pour que cette équipe de Montpellier inscrive moins de points, parce que comme tu l'as dit, ils ont moins de points qui est au-delà des 90 points sur le tournoi, sur 4 matchs, ce qui est énorme. Donc, pour moi, le principal combat de cette équipe de Patriots, c'est d'abord de faire déjouer cette équipe de Montpellier. En sont-ils capables? S'ils le font, ils pourront avoir peut-être la latitude de profiter de certaines failles. Mais si cette équipe de Montpellier est laissée à son aide, si on la laisse dérouler son basketball, cette demi-finale risque d'être un match à trois sur deux.
Oui, tout à fait. C'est une bonne lecture. En tout cas, ce qui est sûr, cette équipe des Monastirs, on l'a vu plusieurs fois. Lorsqu'ils jouent leur défense, ils cherchent à contrôler l'équipe adverse, mais surtout à assurer le triangle des rebonds. Et donc, en assurant le triangle des rebonds, ils peuvent lancer des contre-attaques capitales qui généralement se terminent par un panier car ils ratent pas trop d'opportunités de marquer des points lors de contre-attaques et donc pour cette équipe de Patriots, ça c'est le premier aspect du match, les contre-attaques, comment doivent-ils faire pour ralentir cette contre-attaque? Et je l'avais dit d'autres fois sur cette ligne à nos auditeurs de la Voix de l'Amérique dans tous les pays africains, que la contre-attaque, pour ralentir une contre-attaque adverse, tout commence au rebond offensif, c'est-à-dire les joueurs du Patriots doivent jouer en match-up avec leur adversaire direct. Le joueur qui est sur le défenseur, qui prend le rebond défensif, doit jouer la défense haute là-bas, empêcher cette première passe. Parce que lorsque la première passe a pu démarrer, la contre-attaque est lancée. Très souvent, ceux qui replient n'ont pas le temps de se replacer parce que l'équipe adverse arrive en pleine course. Facile de faire une faute et très souvent ce qui se passe c'est qu'ils n'arrivent pas à bloquer leur adversaire et de facto ceux-là s'en vont vers le panier et marquent des paniers souvent très ouverts. L'autre aspect c'est en attaque l'équipe des Patriots, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour créer la différence? Et ben c'est le sens inverse, ils doivent assurer un bon triangle de rebond, faire des rebonds et faire cette première passe et lancer des contre-attaques, parce que c'est peut-être une des petites faiblesses que cette équipe de Monastir a. Ils n'ont pas toujours un repli assez rapide. Et donc, de cette manière, il y a possibilité de pouvoir créer la surprise et marquer des points faciles, parce qu'en marquant des points faciles, vous vous reposez d'une certaine manière. En travaillant plus longtemps, c'est toujours plus difficile. Mais maintenant, Patriotes, comme on sait que le Monastir, quand ils jouent en attaque, lorsqu'ils ne pourront pas faire une contre-attaque, ils vont développer leur jeu, qui est basé sur un écran, un décalage, un deuxième décalage, une passe croisée à l'opposé, qui se termine ou par un 3 points, ou par une pénétration. C'est leur manière de jouer. Les joueurs de Patriotes Basketball Club vont devoir pouvoir défendre cet écran, d'une part, devoir pouvoir faire les rotations défensives d'autre part pour pouvoir rester dans le match Sedina. Sinon, comme tu l'as dit plus tôt, ils prendront de l'eau et ça risque de devenir un match à sens unique.
Un match à sens unique, je voulais avoir la concentration parce que ce que tu viens de dire, quand tu as terminé la phrase, automatiquement je me dis je faisais une petite analyse. C'est très pertinent et c'est réel en fait, parce qu'on le voit sur les jeux de l'équipe de Monastir par rapport aux autres défenseurs de l'Ottawa. Ils ne sont pas rapides, mais ils sont intelligents dans le repli. Donc, pour profiter de ce repli-là, mais intelligents, il va falloir que cette équipe de Patriots aussi évite, comme tu le dis souvent, de confondre la vitesse et la précipitation. Parce qu'en basket, la vitesse d'exécution adossé à une certaine visibilité permet d'engranger beaucoup de points en contre-attaque. Mais beaucoup de précipitations aussi, comme on l'a vu, favorisent les mauvais choix et c'est des points perdus, des points faciles en général. Et justement, tout ce qui fait être de jeu-là, que cette équipe de Patriots se doit évoluer. Parce qu'on la voit discrète, cette équipe, et ces joueurs, on les voit souvent discrets sur certaines phases de jeu, notamment les phases défensives. Et cette équipe de Monastir est une équipe qui sanctionne les errements de ses adversaires. Donc, il va falloir que les Patriots soient très concentrés pour pouvoir contenir cette équipe de Monastir et surtout au-delà d'éviter ce temps du boulot. D'éviter de prendre des points faciles, parce que les points faciles, en général, c'est un coup au moral de l'équipe.
Tout à fait. En tout cas, dans cette équipe des Patriots Basketball Club, généralement, leur 5 en jeu est composé de Sakamba, Gassana, Ndizeye, Ibe et Costner. Mais nous avons vu lors du match précédent, un 5 en jeu qui n'a pas produit les points qu'on attendait. Et donc on a vu un excellent Gassana, mais dans l'ensemble, on a vu un très moyen Costner, une bonne production de Ibe, un moyen Dizeye qui de temps en temps a fait des bonnes choses, et un Sakamba qui a été souvent en problème de faute. Et ils ont eu ce joker qui est venu du banc, qu'on appelle Mugabe, Aristide Mugabe, qui est vraiment celui qui a porté cette équipe et qui a permis, avec d'autres éléments du banc, de pouvoir sonner la contre-attaque. Et grâce à ça, ils ont pu revenir et battre Maputo. Et aujourd'hui, il va falloir que chacun des joueurs de 5 en jeu puisse faire leur boulot, qu'ils puissent produire, que ce soit sur le plan défensif et offensif, avoir moins de fautes, parce qu'on a vu un Costner avoir 3-4 fautes très rapidement, on a vu IB, je crois, avoir 5 fautes. Il va falloir qu'ils soient sur leurs jambes. Le coach des Patriots va devoir matcher, parce que l'équipe tunisienne n'a pas de pivot. Ils jouent rien qu'avec des power forward qui sont en réalité des ailiers de 2m3, 2m4. Et il va falloir essayer de pouvoir matcher d'une certaine manière leur mouvement, leur déplacement sur le terrain. Et il n'est pas nécessaire de mettre deux grands dans le 5 en jeu. Il serait peut-être intéressant, à mon avis, pour ce coach, le coach de Patriot, d'utiliser Costner comme le centre et mettre un autre joueur dans le 5 majeur pour jouer et garder Mugabe comme le joker qui vient du banc et qui va faire la différence, parce qu'il faut que le banc aussi produise des points pour cette équipe là. De l'autre côté, le 5 en jeu, c'est Omar Ababa du côté de l'équipe de Monastir, El Mabrouk, Slimane, Majok et Ramdan. C'est un 5 en jeu qui se connaît très bien, qui sait jouer au basketball et qui arrive d'une certaine manière à chaque fois à faire du bon boulot. Mais hormis ça, n'oublions pas que le 5 remplaçant de cette équipe de Monastir est pratiquement aussi bonne que le 5 entré en jeu. Et c'est pour ça qu'on a le joker de cette équipe, Wahel Aragji, qui a, pendant toute cette compétition, surpris plus d'un et faire de très 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 bonnes choses sur le terrain, même si le match précédent il a été un peu plus gêné. Est-ce que le Patriot va pouvoir le défendre, spécialement que c'est un gaucher, donc il faut savoir où l'orienter, spécialement sur sa main faible? Ça, ce sont des questions auxquelles le coach et cette équipe de Patriot BC devront répondre, Sedina.
Oui, lors de notre président, on a une autre réponse sur ce qui devait être le jeu par rapport à Aragji. Maintenant, sur ce match-là, il faut que les gens insistent davantage. Mais moi, une chose que je voudrais demander, c'est la bataille du rebond, l'importance de la bataille du rebond dans ce match.
Oui, mais tout à fait. Comme je te l'avais dit au départ, Sedina, le triangle des rebonds, spécialement en défense, est très important parce que nous avons pu voir que cette équipe de Monastir a énormément de chances, des deuxièmes et des troisièmes chances. Et pour pouvoir les limiter, il faut non seulement jouer une bonne défense, il faut faire les rotations défensives pour être tout le temps... que chaque joueur soit avec son vis-à-vis de telle manière que lorsqu'un tir est pris, chaque joueur fasse l'écran retard à tous les niveaux, que ce soit les arrières, que ce soit les intérieurs, parce que s'ils ne font pas, par exemple si les intérieurs, ceux qui sont dans la raquette font les écrans retard et que ce sont des longs rebonds et que ça passe par-dessus leur tête et que les arrières de cette équipe de Patriotes ne bloquent pas leurs hommes, ne fassent pas des écrans retard, qu'est-ce qui se passe? Ils ont une deuxième ou une troisième chance et peuvent recommencer leur attaque. Donc les rebonds défensifs sont plus que importants pour pouvoir capitaliser. De l'autre côté, bien sûr, il faut toujours être actif sur le plan offensif. Par exemple, le rebond, il ne faut pas. Il y a, moi, ce que je sais, la technique souvent que j'apprends à mes joueurs au rebond offensif, c'est que ne jamais coller son adversaire, parce que si vous collez votre adversaire, il peut facilement faire un écran retard sur vous. Donc, quand le jeu se passe, au moment où le tir veut partir, écartez-vous un peu de votre adversaire. Ça oblige le défenseur à vouloir venir vous chercher et vous pouvez l'enrouler pour pouvoir aller au rebond. Généralement, c'est la technique qui est utilisée. Et donc, de ce côté-là, le rebond offensif, ça va vous permettre d'en avoir. Si vous pouvez marquer immédiatement, vous marquez. Si vous pouvez pas marquer, vous récupérez et vous repartez pour une autre attaque. Donc c'est souvent ce qui se passe. Et dans ce cas de ce match-là, c'est ce qui est sur Monastir, souvent à un très bon triangle de rebond. Il appartient à cette équipe des Patriotes d'en faire de même, parce que c'est 40 minutes d'intensité qu'ils vont avoir, parce que l'équipe de Monastir nous a montré que pendant 4 quarts temps, eux, leur intensité demeure et ils ne sont pas très fatigués. Donc est-ce que le coach va pouvoir utiliser son banc? Parce que comme je le disais tantôt la dernière fois, Sedina, le banc, même s'il ne marque pas des points, mais peut permettre de jouer la défense, prendre des rebonds défensifs, ralentir l'équipe adverse. Le coach peut décider de faire des attaques un peu plus placées, qui sont plus longues. Ça peut permettre aux Patriotes de rester collés à cette équipe de Monastir. S'ils arrivent à faire ça et tenir jusqu'au quatrième quart-temps, ils ont une petite chance de pouvoir remporter ce match.
Hier, le match hier Monastir, on peut le comparer au match des Nets contre les Celtics hier. Les Nets, c'est une armada, les Celtics, ils ont des potentiels, il fallait en profiter. Et c'est Tristan Thompson, justement, par rapport au rebond, qui a été un effort déterminant avec beaucoup de rebonds offensifs. Et suite à une activité défensive qui permet un peu d'être dominant dans la raquette et d'en profiter face à une équipe qui, à l'extérieur, est beaucoup plus forte, par exemple.
Tout à fait. En tout cas, il faut reconnaître que dans ce match-up entre l'US Monastir et les forces armées et l'AS Douane, qui est de plus petite taille, cette équipe n'a pas pu ou ne s'est pas assez battue pour pouvoir essayer de prendre des rebonds. Donc, ça a permis à cette équipe de US Monastir de faire son jeu le plus tranquillement possible et de se qualifier assez facilement, pour ne pas dire très facilement, dans ce match qu'elle a dominé au rebond. Et donc, les rebonds, c'est un travail de volonté. Le rebond, pour bien le faire, il faut pas se concentrer sur le ballon, mais il faut d'abord se concentrer sur son adversaire. Il faut s'assurer que vous l'avez d'une certaine manière verrouillé, et lorsque vous l'avez verrouillé, tout peut se passer. C'est comme ça le basket. Si vous regardez le ballon, vous avez de fortes chances de ne pas faire attention à votre adversaire qui peut vous contourner. Et donc c'est simple, l'équation est très simple. Il appartient à cette équipe de Patriotes d'avoir la volonté d'aller chercher, de faire l'effort supplémentaire. De toutes les manières, c'est un match à un aller simple. Il faut qu'ils assurent leur rebond et qu'ils soient plus sélectifs dans le choix des tirs dans ce match-là, et tout se jouera. Mais nous allons très bientôt prendre un petit break avant le match. Nous allons revenir, Sedina et moi, sur la ligne afin de présenter les dernières deux dernières minutes afin de revenir sur ce match qui va démarrer dans quelques secondes. Eugène Péwa-Péwa depuis le studio de la Voix de l'Amérique avec Sedina Abba Gay depuis le Sénégal. Nous allons essayer de nous décortiquer le match du mieux qu'on peut et ça vous permettra de vivre d'une certaine manière ce match qui sera très très intéressant en couleur et en toute chose. Donc à tout de suite pour le coup